Qu'il l'eût cru, avec Des idées plein la terre. Une émission qui parle de terre crue, mais pas que.
Bienvenue tout le monde dans ce nouveau numéro de l'émission Qui l'eût cru, une émission qui parle de terre crue, mais pas que. Et ça, c'est avec bien sûr l'association Des idées plein la terre pour échanger avec moi aujourd'hui sur RJR et Radio Primitive. J'accueille Adrien Arras-Gaudry. Salut à toi, Adrien.
Eh bien, bonjour, James.
Peux-tu nous rappeler un peu ce que tu fais dans la vie, Adrien ?
Alors, ce que je fais dans la vie, en ce moment, je suis en train de terminer mon manuscrit de thèse qui porte sur la construction en terre crue, donc sur le territoire de la Champagne. Et j'ai commencé aussi un contrat de recherche financé par le Chalon Agglomération que je mène dans un autre laboratoire qui s'appelle ITEM, qui est spécialisé sur les matériaux de construction. Voilà, c'est pour prolonger un peu ce travail sur la terre crue avec une approche, entre guillemets, on va dire plus moderne, ou en tout cas, le but, c'est de construire aujourd'hui avec la terre du territoire.
Et puis, tu es un des éléments importants de l'association des idées plein la terre, puisque tu es co-président de l'asso.
Tout à fait.
Alors aujourd'hui, ce qu'on va évoquer ensemble, ce sont les caractéristiques de la terre crue dans la construction. C'est vrai que si on prend les choses à la base, il faut analyser ses qualités et ses défauts. Voilà, comment on peut qualifier cette terre crue ?
Oui, voilà, tout à fait. En tout cas, on va dire que, alors d'une part, j'ai une expérience laboratoire qui me donne un aspect plus technique, en tout cas sur une approche physique de la terre, sur une mesure quantitative. On va chiffrer les choses. Et puis nous, ce qu'on a envie de porter aussi avec l'association, c'est ce qu'on appelle un peu le rapport sensible qu'on a à la terre, qui sont d'autres caractéristiques, parce que ces caractéristiques physiques vont nous permettre de la manipuler différemment, et elle va jouer aussi sur potentiellement le confort intérieur des maisons. Donc voilà, pour nous, c'est important de faire la passerelle entre une approche physique qui sera chiffrée quantitative et une approche plus sensible qui, je pense, parle un peu plus finalement à tout le monde dans la manière dont on ressent les choses. Pardon.
Alors si on doit parler à tout le monde, avant qu'on attaque justement toute cette approche technique, qu'est-ce qu'on construit de la terre crue ?
Avec de la terre crue, on construit un peu tout, tout ce qui est forme d'habitation. Historiquement, on a construit des maisons, des granges, et puis des fours, même pour cuire le pain. Donc on peut construire absolument tout d'habitats qui pourraient en fait rester en place sur des centaines et des centaines d'années en dur. Et puis des habitats aussi qu'on pourrait déconstruire, ou en tout cas qui seraient de l'architecture, on va dire, temporaire, voilà, plutôt.
Encore une fois, il y a une notion aussi d'économie circulaire. Quand tu parles de déconstruction, ça veut dire que c'est un matériau qu'on peut réutiliser à l'infini.
Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment une particularité. Alors, à la fois de la terre, mais aussi des matériaux qu'on pourrait dire premiers. Là, je pense au bois et à la pierre. Et quand je dis premier, c'est non seulement premier, enfin, qu'on pas été transformés par l'être humain, ou très peu, et qui en plus sont locaux aussi. Parce que si on commence à les déplacer, il va y avoir un impact carbone, en tout cas, comme oui. On pourrait le dire, avec du transport, etc. Alors qu'historiquement, on a construit avec ce qu'il y avait sous nos pieds, que certains qualifient d'architecture de cueillette. Dans le mot cueillette, il y a aussi cette notion de savoir-faire locaux, mais aussi du fait qu'on prélève juste ce dont on a besoin, à l'opposé d'un rapport extractiviste au monde qu'on pourrait avoir aujourd'hui. On fait en grande quantité. Le but, c'est de vendre, et donc on se retrouve avec des quantités énormes de ressources. Là, c'est vraiment du coup une terre locale, et puis avec cette spécificité, c'est qu'une fois que la terre elle est en fin de vie, on peut la laisser sur place et elle va en quelque sorte se composter, puisqu'avec l'effet de l'eau, elle redevient de la boue et chaque élément retourne à la nature, et on pourrait la réutiliser aussi pour reconstruire exactement la même chose avec les mêmes caractéristiques physiques. Voilà, donc c'est un peu tout ça.
J'imagine, et c'est important de le préciser, qu'on la prend pas dans l'état, on la travaille quand même avant qu'elle puisse avoir ses qualités de briques dures.
Oui, alors en fait, le travail est assez simple. En fait, comme la cohésion, elle est due vraiment aux argiles. Et donc là, en fait, il suffit de la mouiller un peu pour activer les argiles, pour faire en sorte que les argiles collent. Et ensuite, on la laisse de nouveau sécher et elle va garder la forme qu'on lui a donnée avant. Donc le travail, en fait, est potentiellement, en fait, il a toujours été minimum dessus.
Si tu peux maintenant nous expliquer, qu'est-ce qui fait que c'est aussi bien, sinon mieux, finalement, qu'un ciment, que toute autre chose qu'on peut utiliser dans la construction actuelle.
Alors mieux, c'est toujours délicat de le dire, parce qu'il y a plein d'aspects à prendre en compte, et du coup, je dirais que par rapport, encore une fois, aux autres matériaux locaux comme le bois ou la pierre, on va dire que c'est un jeu d'ensemble. On a besoin de la pierre, par exemple, pour être en soubassement, parce que la pierre, elle va être plus résistante à la question de l'eau. Si on met les pieds directement d'un mur en terre en soubassement, en fait, la terre va fondre, donc structurellement, ça marcherait pas. Donc c'est vraiment une vision d'ensemble. En tout cas, la terre, ce qu'elle a en particularité, on pourrait commencer par ça, c'est sa question de l'inertie. Là, je vais parler du confort thermique en été. On a l'atmosphère se réchauffe et on voit bien qu'en été, parfois on a des canicules, ou en tout cas, on a des sensations de chaleur à l'intérieur de la maison. Alors aujourd'hui, dans une approche très technique, on va devoir avoir des systèmes de ventilation ou autres, des climatiseurs qui vont venir permettre d'avoir une atmosphère confortable. Alors que la Terre, en fait, elle a une capacité d'inertie, on va dire, en fait, par ses caractéristiques physiques, mais aussi son épaisseur de mur, qui fait qu'il y a ce qu'on appelle un déphasage. Entre le moment où la chaleur va arriver sur l'extérieur du mur et pénétrer à l'intérieur de la maison, il va se passer grosso modo 12 heures, ce qui fait que les vagues de chaleur vont arriver pendant la nuit, qu'on a le temps d'ouvrir les fenêtres, et ce qui fait que, ça c'est plus une approche technique, mais sensiblement, c'est le témoignage des personnes qui vivent dans des maisons encore aujourd'hui en terre, que ce soit à la ville ou à la campagne, et qui nous disent « Mais en été, je suis toujours bien dans ma maison, et pourtant, ils n'ont aucun matériel technologique ou autre pour se sentir bien. » C'est simplement cette terre qui, par son inertie, va permettre de se prémunir des vagues de chaleur.
Donc c'est un isolant à la fois pour la chaleur. Le rapport inverse, il fonctionne aussi, c'est-à-dire que l'hiver, est-ce qu'on a aussi cet effet isolant intéressant, garder une certaine chaleur dans le foyer?
Alors en hiver, le matériau, la terre n'est pas un matériau isolant tel qu'on l'appelle par rapport au froid, donc ça va prémunir du chaud. On ne va pas pouvoir se passer d'une question... Alors, encore une fois, ça dépend de l'endroit où on se situe. Tout ça, il faut bien le remettre dans un contexte, c'est qu'il n'y a pas de solution en box ou qu'on pourrait vendre comme ça n'importe où sur le territoire. Prenons un exemple simplement, si je suis orienté nord sur une colline et que j'ai jamais les rayons du soleil, ou orienté sud et que je bénéficie toute l'année, par exemple, un peu plus dans le sud de la France, des apports du soleil, ça ne sera pas la même stratégie. En tout cas, la Terre n'isole pas du froid à proprement parler. Donc il faut isoler comme tout matériau en fait.
On ajoute des couches d'isolant.
Ouais. Avec la particularité, c'est que la terre en fait, elle peut régler l'hygrométrie. Ça veut dire qu'elle va absorber l'humidité et pouvoir la relâcher aussi. Elle a cette capacité-là, qui est une capacité énorme et qui est pour le coup par rapport aux autres matériaux est bien supérieure. Ce qui est important vis-à-vis de cette humidité, c'est qu'elle puisse passer d'un côté à l'autre du mur. Et donc l'isolant, il va devoir avoir les mêmes caractéristiques pour pouvoir faire traverser cette humidité, parce que sinon on vient la bloquer à l'intérieur et là on peut se retrouver avec des pathologies. Alors voilà, mais bon, pour dire, il y a un autre phénomène qui se passe dans la Terre, c'est qu'aussi cette capacité à réguler l'humidité fait que déjà il y a un confort intérieur parce que l'humidité sera toujours la même et donc agréable pour nous êtres humains, entre 40% et 60% d'humidité relative. Mais il y a aussi un phénomène de micro-évaporation ou de condensation de l'eau. Par exemple, en été, l'eau qui est contenue dans le mur, elle va s'évaporer. Et donc ce phénomène va venir rafraîchir l'atmosphère intérieure. Donc ça participe en plus de l'inertie dont je parlais tout à l'heure. À l'inverse, en hiver, l'eau va se condenser et ce phénomène produit des calories et va augmenter sensiblement la température aussi intérieure par ce fait-là. Donc il y a aussi ça qui, corrélé à une isolation qu'on pourrait mettre potentiellement à l'extérieur, en fait, va jouer aussi sur le confort intérieur.
Là, on est en train de dérouler justement toutes les qualités techniques de cette fameuse brique de terre. Il y a d'autres qualités qu'on peut carrément mettre en avant, en se disant il n'y a pas que ça justement. Il y a aussi le fait qu'on a une isolation acoustique, par exemple.
Oui, tout à fait. Alors, et du coup, le but, c'est vraiment là d'essayer de tisser un lien entre des caractéristiques physiques qui sont multiples et des caractéristiques sensibles. Il faut savoir que déjà, il ne faut pas forcément opposer le physique et le sensible parce que les deux vont jouer. C'est ce que je disais. Une forte inertie va permettre sensiblement de se sentir confortable à l'intérieur de sa maison. Et là, c'est une sensation humaine qu'on a et ce n'est pas un apport chiffré. Mais également, de ne pas faire la distinction entre chaque caractéristique physique puisqu'elles sont corrélées potentiellement. Et voilà, donc tout ça c'est un espèce de c'est une relation d'ensemble. En tout cas sur l'aspect acoustique, la Terre elle va avoir un rôle qui peut jouer à la fois sur l'acoustique à l'intérieur d'une même pièce et d'une pièce à l'autre. Il y a deux manières de voir l'acoustique, c'est comment un son passe d'un endroit à un autre entre deux voisins par exemple, et comment ça résonne à l'intérieur de la pièce. Et en fait ceci va avoir un rapport aussi sur la manière dont on sent si le son résonne. On voit bien qu'on sent pas forcément très bien à l'intérieur d'une pièce. Donc en fonction de la manière dont on va jouer sur la finition, la manière dont on va mélanger la terre avec d'autres fibres, on va avoir des caractéristiques acoustiques variées. Et donc ça, en fait, ça se travaille. Mais avec la terre, on peut avoir ce qu'on appelle un masse ressort masse dans une cloison, c'est-à-dire qu'on vient atténuer les différentes longueurs d'onde, donc les bruits aigus et les bruits graves. Ça va jouer sur la masse qu'on met dans la terre, donc soit que de la terre, soit de la terre avec beaucoup de fibres pour avoir un matériau léger. Et on peut jouer en tout cas sur tout ça, plus une irrégularité de surface qui vient créer des aspérités pour enfermer le son. Et ça, de manière sensible, je pourrais sortir des chiffres sur combien de décibels on vient atténuer en surface ou d'une transmission à l'autre. Et là, les auditeurs, les auditrices ne vont pas forcément, à part ceux qui sont peut-être dans la musique ou autre, ou les ingénieurs, pouvoir se raccrocher là-dessus. Mais en fait, tout simplement, là, la partie sensible, et c'est ce que nous, on souhaite mettre en avant, c'est allons visiter des bâtiments en terre, on se met à l'intérieur, on discute dans une pièce, et là, sans chiffres, on va se dire, je me sens bien par rapport à la chaleur, je me sens bien par rapport au son. Et ça, c'est quelque chose qu'on ressent. Et voilà. Et donc mais les deux sont liés. On voit bien que la mesure qu'on a par l'aspect scientifique, elle raconte finalement ce qu'on va avoir par le sensible. Et pour nous, ce qui prime, c'est le sensible, parce qu'en tant qu'être humain, on a nos sens. Et c'est à ça qu'on a envie de se raccrocher aujourd'hui.
Donc là, tu expliques aussi que la brique va avoir un comportement un peu différent en fonction de sa concentration en terre, mais également avec des fibres. Là, on a carrément deux briques qui vont avoir des comportements différents.
Ah oui, tout à fait, oui. Alors, il y en a une qui aura... Alors, si on a que de la terre, ça aura plus un aspect structurel. Et si on a que des fibres, ça aura un aspect plutôt isolant. Donc, le matériau est autoporteur. Enfin, il se tient tout seul, mais il ne pourrait pas porter un plancher ou autre. Mais là où je dis que tout joue ensemble, c'est que, ce qu'on disait tout à l'heure, on a besoin d'isoler. Et donc, pour isoler, on va rajouter des fibres. Donc, c'est la complémentarité de tout ça. Et en même temps, on voit bien que si on isole, on vient apporter quelque chose de plus léger. Et donc, par exemple, par rapport au son, on vient aussi apporter une capacité supplémentaire. Et en plus de tout ça, si la terre est plus ou moins fibrée, eh bien on va changer l'esthétique aussi. Et donc là, on a aussi un aspect esthétique sur qu'est-ce que je vais avoir visuellement sur une surface lisse, sur une surface granuleuse qui va apporter plein de petits jeux d'ombre, etc. Donc voilà, donc c'est vraiment tout ça. Et au niveau des sens, il y a le confort acoustique, visuel et sensoriel. Et en fait, tout ça se ressent. Voilà, donc tout ça fait partie d'un tout.
Parlons-en du visuel, justement. C'est beau, un mur en briques de terre crue. Ça peut être très beau, ça peut être au goût qu'on le souhaite.
Ah oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on sur le territoire, on aurait soit la terre est cachée par des enduits parce qu'elle doit être protégée, ce qui peut être compréhensible, mais également en intérieur, on vient la recouvrir alors que... quand on voit la terre aujourd'hui sur notre territoire, grosso modo, c'est quand il y a des pathologies et donc l'esthétique laisse un peu potentiellement à désirer. Vis-à-vis aussi d'une vision qu'on a actuellement de qu'est-ce que la beauté, j'ai l'impression, tendance à avoir une volonté des surfaces lisses, bien nettes, bien propres. Qui est issu de tout un courant aussi de social et sociétal qu'on porte, avec des valeurs qui sont inhérentes à cette notion d'esthétique. Mais en tout cas, il est sûr qu'on peut atteindre différents types d'esthétique aujourd'hui avec la terre, aussi bien au niveau de sa couleur en fonction des grains qu'on va avoir que des différents aspects. Et là-dessus, par exemple, on va vraiment avoir ce qu'on a... Quand je parle de surface, de la profondeur qui peut jouer sur la couleur. Aujourd'hui, avec plein de peintures, on a une espèce d'uniformité. Alors que si on regarde les façades anciennes aussi dans du à la chaux, soit des fois on a différentes couches avec des transparences, soit si on vient gratter, les petits grains viennent créer de l'ombre sur la surface. Et ce qui fait que l'œil harmonise la couleur, mais il y a ce qu'on appelle quelque chose qui vibre en fait, parce que la couleur, elle va vibrer en fonction de la lumière, de l'heure, de la journée. Et ça, c'est quelque chose vraiment, si on y fait attention, ça procure aussi une émotion et une espèce de confort aussi.
Tu parlais de l'enduit, on met peut-être pas n'importe quoi sur une brique de terre crue, qu'est-ce qu'il faut mettre convenablement?
Oui, c'est un peu le propos que j'avais tout à l'heure, c'est vraiment cette question de l'humidité pour le coup. Ouais. Il faut que l'humidité puisse traverser d'un milieu à un autre, de l'intérieur vers l'extérieur ou inversement, et donc il faut des enduits qui laissent traverser. Donc soit on peut faire des enduits en terre, si la façade est protégée, si on est en intérieur, on peut tout à fait juste laisser de la terre, et sinon, si on a besoin d'un renfort mécanique un peu plus grand contre des chocs ou parfois la pluie, si le débord de toiture n'est pas suffisant, et bien là c'est vraiment... la chaux qui va venir laisser respirer, donc surtout pas de ciment. Et puis il existe différents types de chaux, et donc plutôt une chaux qui est la plus ouverte possible, et voilà. Et puis historiquement, on a aussi mis du plâtre à l'intérieur, qui est aussi possible. L'épaisseur aussi des enduits va jouer, et voilà, et un simple badigeon de chaux par exemple en intérieur est largement suffisant à laisser perspirer largement et en même temps permettre de Je vais laisser le support. J'en profite juste, pardon, je refais vraiment aussi, je reviens sur l'esthétique, je parlais des enduits avec la surface, mais même juste là, je pense à la brique de terre crue, il y a différentes techniques. Chaque technique va avoir son esthétique. Le pisé, qu'on retrouve plus souvent en Rhône-Alpes, mais aussi dans la région toulousaine, mais un peu partout dans le monde, on va avoir des lits, donc comme des strates, qui fait penser un peu à une coupe géologique qu'on a. Donc ça, les gens aiment beaucoup. On peut se projeter en fait sur ces façades-là, on a l'impression de traverser le sol. Et d'ailleurs, c'est ce que raconte la terre de manière sensible. Elle raconte ce qu'il y a sous nos pieds. Et les briques, contrairement en fait, comme c'est plein de petits modules avec des lits de mortier, eh bien, on va avoir des façades avec des creusements aussi en fonction de la manière dont les joints sont faits. Et ce qui vient apporter une esthétique totalement différente, qui vient accrocher la lumière à de multiples endroits. Et voilà. Et donc, c'est juste pour raconter qu'à travers la technique, les différentes techniques, on a différentes esthétiques et qui sont toutes aussi belles les unes que les autres, en tout cas.
Alors, il y a aussi quelque chose qui est toujours important pour le public qui nous écoute, c'est ce que ça coûte, la terre crue, toute la partie transport, tout ça qui compte, si on n'est pas tout à fait à côté d'une terre qui est propice à la construction. Dites-nous en plus à ce sujet.
Oui, alors tout à fait. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que aujourd'hui on a une capacité de transport par nos énergies et puis la manière dont on consomme cette énergie qui nous donne la sensation qu'on peut avoir absolument tous les matériaux sur toute la planète dans tous les domaines. Ouais. On peut construire avec du bois qui vient de l'autre bout de la planète. D'ailleurs, il a été récurrent de prendre du bois de France pour l'envoyer à l'autre bout du monde pour se faire traiter et revenir pour construire avec. Et du coup, il faut faire aussi attention avec la terre, de pas se dire on va construire avec une terre qui vient de même 200 km, c'est déjà énorme. Historiquement, on a construit avec les ressources qu'il y avait sur place, donc bois, pierre et terre, et même fibres potentiellement. Et donc la terre, historiquement, un exemple, c'est que dans des travaux de la géologie en France où on vient faire l'étude des sols dans les différents départements, eh bien en fait, ils traduisaient, en tout cas pour la Champagne, j'ai retrouvé dans les textes concernant nos quatre départements, la répartition à minima, au milieu 19e siècle, des carrières pour fabriquer les briques de terre crue qu'on a chez nous. Eh bien, il y en avait à peu près dans quasiment tous les villages. Donc la ressource, elle était vraiment à moins de quelques kilomètres, quoi. Et donc le transport se faisait soit par des tombereaux, en tout cas des petites charrettes qui étaient tirées à la force d'un cheval, soit c'était directement sur le terrain. Et donc ça répond aussi à la question, si on n'a pas de terre à bâtir, en fait ce que je dirais, c'est si vraiment il n'y a pas de terre propre à la construction, c'est qu'il y a de la pierre, c'est qu'il y a du bois. Et sinon, en tout cas pour nous en Champagne-Ardenne, si on est sur le plateau calcaire, 90% de chances de trouver une terre bonne à la construction à moins de 3 km. Et donc cette réflexion qu'on peut avoir sur cette répartition communale des carrières de terre à bâtir, en fait, nous fait réfléchir aujourd'hui sur notre rapport en fait à ces questions de ressources, où on va puiser des énormes carrières dans un endroit unique et imposer du transport alors qu'on pourrait tout répartir. Et voilà, et corrélé à la question du prix, c'est que moins de transport, moins de pollution, mais moins de transport, un coût moindre. Et c'est que il faut revenir là-dessus. Les carrières étaient communales et donc les gens du village allaient se servir dans leur carrière gratuitement. Donc, c'est aussi une ressource qui, en fait, sur la matière, en fait, est accessible vraiment pourrait être accessible vraiment à tous. Et aujourd'hui, comme c'est considéré comme un déchet, on la transporte et en fait, on vient payer à chaque fois le fait de la faire partir du terrain sur lequel on construit. Et en contrepartie, on achète d'autres matériaux qui viennent. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'insensé, finalement, quand on réfléchit. Ouais.
Donc, quand tu dis c'est gratuit, ça veut dire que, finalement, n'importe qui peut accéder à de la terre, vérification faite des qualités pour la construction, mais par contre oui, on peut la trouver gratuitement.
Oui, on peut la trouver gratuitement. Après, il y a une notion aussi à voir, c'est qu'on est dans une société où l'être humain s'accapare un peu le monde et donc se dit tiens, il y a des propriétaires de terrain, et du coup à partir du moment où on est propriétaire d'un terrain, d'autres personnes n'ont pas le droit de venir dessus. Donc bon, il y a toujours ça à avoir en tête. C'est pour ça que je parlais de carrière communale au milieu du 19e siècle, c'est qu'on pourrait dire il y a des endroits qui font partie des communs et là ça sert à construire, donc tout le monde peut y aller sans qu'on ait besoin d'aller dans le champ d'un voisin et lui piquer de la terre de manière illégale, on va dire, d'une certaine. Voilà. Mais sinon, l'autre chose, c'est que, comme je disais, j'ai eu la chance de participer à un projet de création de communauté Emmaüs, qui est une briqueterie solidaire au nord de Rennes. Et par exemple, pour ce projet concrètement, on récupère la terre des travaux, des chantiers, de voiries ou autres alentours. Et comme sur ces chantiers-là, l'extraction de la terre, elle est emmenée en carrière, en fait, ça leur coûte un coût de transport plus de carrière, et où la briqueterie dit, en fait, vous pouvez nous livrer la terre gratuitement, nous, on ne vous paye pas, mais eux, en échange, ils gagnent à la fois du coût de transport, puisque la briqueterie, en général, est plus proche que les carrières, et en plus, on ne leur fait pas payer les frais de carrière. Et donc, il y a d'autres stratégies pour trouver de la terre gratuitement, et autour de Reims aussi, aujourd'hui, quand on construit des nouveaux quartiers, ou même dans Reims, c'est pareil, la terre est extraite et on trouve en général des particuliers qui disent je donne ma terre parce que je ne sais pas quoi en faire et ça va me coûter de l'argent.
Il faut que je m'en débarrasse. Voilà, en gros, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Si on revient tout à fait à la base, quand on est enfant, on aime bien jouer dans la terre, goyer un petit peu dans les flaques d'eau, tout ça, et puis toucher la terre, jouer dans la boue. Donc ça renvoie aussi ce signal du fait que ce n'est pas dangereux, quoi.
Oui, tout à fait. En fait, c'est à la fois, c'est ludique. On peut tout faire avec la terre. Alors là, je vais pas m'épancher là-dessus, mais du côté de la philosophie, il y a Gaston Bachelard, en plus qu'un philosophe qui vient de l'Aube, en tout cas qui venait de l'Aube, et qui a raconté ça un peu le rapport sensible. En tout cas, on peut dire que l'être humain agit sur le monde, mais que le monde agit sur nous aussi. Et donc c'est pareil avec tous les matériaux. Il a écrit des textes autour de ce rapport entre l'être humain et la matière, la manière dont on travaille la matière. Et la terre, en fait, elle peut se travailler à un état plus ou moins plastique, donc avec plus ou moins d'eau. Et donc, on va avoir ce rapport qui est vraiment extrêmement ludique. On voit qu'on a envie de découvrir ça. Plus elle est molle, on peut faire des enduits, mais en tout cas, on va essayer de faire des pâtés. Et puis, plus elle est dure et plus on peut avoir des choses qui se tiennent. Et tout ça, en fait, les enfants le comprennent très bien parce qu'ils ont un rapport direct. Et nous, en tant qu'adultes, ça nous renvoie vers cette espèce de sensorialité, matérialité du monde qui nous entoure. Et donc, oui, en plus, comme la terre, c'est juste des grains et de l'argile, en fait, on peut toucher à main nue. Donc ça a des conséquences sur le fait de pouvoir jouer avec, mais ça a des conséquences aussi sur le chantier. Moins de protection, elle est réversible, elle sèche lentement, et donc du coup, le chantier n'a pas besoin d'être forcément à un rythme qui est avec une cadence imposée. La terre, elle vient aussi contrer un peu la propension de nos sociétés à aller de plus en plus vite. Et en fait, il faut attendre qu'elle sèche. Alors certains et certaines personnes qui travaillent dessus essayent de contrer ça, mais finalement la Terre, dans sa nature propre, elle nous impose finalement une sorte de ralentissement, parce qu'elle se dit laissez-moi sécher tranquille et c'est comme ça que je vais marcher, quoi.
Voilà. Ce qui montre bien aussi dans ce que tu dis que ça peut être un projet familial. On décide de reconstruire quelque chose à côté de sa maison en terre crue. Là, toute la famille peut prendre part à la construction.
Oui, historiquement, c'était comme ça. Alors, encore une fois, c'est aussi, il y a eu un grand passage d'une société paysanne dans nos sociétés au début du 20e siècle, grosso modo, du 20e siècle, à une société donc qui est plus urbaine. Et qui s'est déconnecté un peu de tout ça, mais historiquement, à la campagne, c'était souvent les paysans eux-mêmes qui, à l'aide justement d'amis ou par la solidarité qui existait entre voisins et voisines, de fabriquer eux-mêmes leur propre brique. Il y a plein d'exemples qui existent. Et parfois, en ville, peut-être plus des maçons, des gens qui étaient spécialisés dessus, mais en tout cas, ça a souvent été collectif, mais comme plein de choses de la vie quotidienne.
On pourrait échanger avec toi pendant très longtemps. J'invite tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent à prendre contact avec l'association des idées plein la terre, et puis pourquoi pas donc à discuter avec toi lors d'un événement. Des événements, il y en a qui arrivent d'ici quelques jours et quelques semaines avec l'association, si tu veux bien nous en parler. Déjà, la construction de la cabane popoétique de Cruny qui se poursuit.
Oui, tout à fait. Alors, il y a eu quelques jours de chantier cette semaine. Là, en ce moment, c'est la toiture, donc la végétalisation de la toiture. On vient apporter de la terre végétale dessus, donc il y a la bâche qui commence à être qui a été mise en place pour éviter effectivement qu'il y ait l'infiltration d'eau par le toit, ça serait dommageable. Va y avoir aussi les enduits qui vont arriver pour avoir la finition. Donc ça va se dérouler une fois par mois. Donc là, les prochaines dates, c'est 29 et 30 avril à Cruny.
Voilà, il y aura d'autres dates également en mai et en juin.
Tout à fait.
Et tout ça se retrouve sur Hello Asso, des idées plein la terre.
Oui,
je crois.
Et puis on peut voir aussi sur le Facebook ou alors le site internet de l'association.
Une exposition également arrive à la Maison de la vie associative de Reims.
Oui, tout à fait. C'est une exposition avec des panneaux, notamment, qui expliquent un peu les grandes généralités de la terre crue, de manière mondiale, et puis sur ses spécificités. Et en fait, donc, elle sera à la Maison de la vie associative du 23 avril au 7 mai. Mais on l'aura aussi pendant le festival de la semaine prochaine, qu'on organise conjointement avec Les Bons Restes et Des Idées Plein la Terre, du 10 au 15 juin. Et donc, ça sera sur au local des Bons Restes.
Exactement. Et puis, pour celles et ceux que ça intéresse de découvrir la vie de l'association l'émission des idées plein la terre, l'Assemblée Générale, les 5 ans, le 5 avril chez les Bonrest.
Tout à fait. Et puis il y aura des activités aussi qui seront proposées. C'est vraiment l'occasion de venir en plus découvrir alors la manière dont l'asso fonctionne et puis c'est de voir un peu toutes les activités qu'on propose. C'est vraiment un temps qui est toujours très agréable même pour nous de l'asso. Ça nous permet de revoir tout ce qu'on a fait sur une année. Ça fait du bien et ça permet vraiment aux personnes qui sont curieuses de venir découvrir les différentes activités parce qu'il y a vraiment plein d'aspects à voir. Et puis à travers les activités concrètes, c'est l'occasion justement, ce que je disais, de pouvoir toucher la terre et peut-être que c'est ça que je voudrais ramener encore aujourd'hui, c'est que au-delà d'une approche vraiment quantitative sur les différentes caractéristiques techniques, c'est que là vous entendez le son de ma voix avec ce que je raconte, on peut se sentir éloigné. Le meilleur moyen, c'est de mettre les mains dedans et vraiment découvrir, parce que c'est un apprentissage aussi de le rapport sensible, c'est petit à petit, c'est dire c'est bizarre, on touche, assez agréable, on voit le résultat. Les gens sont quand même en général assez surpris. Je vois même dans les laboratoires de recherche, quand j'arrive avec la terre, les gens se disent c'est quoi ce truc? Et puis finalement, ils disent ah ouais, mais c'est joli, oh mais c'est dur. Donc voilà, je vous invite vraiment toutes et tous à venir pouvoir découvrir la terre avec votre corps et vos sens, quoi.
Bravo, ça c'est un très très bel appel. À noter aussi qu'il y a un événement à destination des professionnels qui s'appelle Bâtir dès demain. Il fait son retour, ça sera à Pont-à-Mousson cette année.
Tout à fait, l'année dernière c'était au BTPCFA de la Marne à Reims et là du coup comme c'est sur tout le Grand Est, on va du côté de la Lorraine entre Metz et Nancy de mémoire. Ça sera sur 2 jours et donc il y a une journée justement qui est aussi dédiée pour les étudiants et les étudiantes, du coup en tout cas pour les plus jeunes, pour venir vraiment découvrir cette matière le plus tôt possible, et une autre journée à destination effectivement plutôt des professionnels avec des conférences, tables rondes, échanges, ateliers.
Ça sera donc les 4 et 5 juin. Bien sûr, toutes les dates qu'on a évoquées, vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux de l'association Des Idées Plein la Terre. Voilà, il ne me reste plus qu'à te remercier, Adrien.
Merci à vous. Et puis, je vous rappelle, ça a déjà été dit certainement, mais on a un site internet, donc il y a plein d'images aussi.
C'est sûr. Ouais. Exactement. Allez faire un petit tour. Voilà, on se donne rendez-vous le mois prochain sur RGR et Radio Primitive avec une nouvelle chronique, Qui l'eût cru ? Une émission qui parle de terre crue, mais pas que.
Merci.